Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure en marge du Festival Québec BD. À chaque année, il y a des invités qui sont de passage à Québec, dont on souhaite profiter de la présence. Et il y en avait deux, en fait, que j'avais envie particulièrement de rencontrer à cette occasion, puisque ils ont animé pour moi de belles heures de lecture. Alors, il s'agit de Teresa Valero et Juan Diaz Canales. Bonjour à vous deux.
Bonjour, ça va?
Bonjour, enchanté.
Enchanté. Et évidemment, je parle de plusieurs heures de lecture. En fait, Juan Diaz Canales, on parle de Black Sad, entre autres. On parle de la reprise aussi de Corto Maltese il y a quelques années. Là, je me limite clairement à la production récente. On ne tombera pas dans Au fil de l'eau et plein d'autres albums que j'ai fort appréciés. Et parallèlement, ensemble, Teresa et Juan, vous avez donc la série Gentleman que vous avez co-scénarisé également, donc on parlera. Et Teresa Valero, il y a Contrapasso, tome 1, votre premier album à titre de dessinatrice et de scénariste qui a été publié l'an dernier. Absolument superbe BD également. Alors, je pense qu'on a beaucoup de matière. La question que je me posais, c'est comment rentrer ça dans une émission? Mais on va tenter de le faire. Et puisque j'ouvre la porte, tiens, sur Contrapasso, je proposerais qu'on commence, qu'on se lance avec celle-là. C'est peut-être une BD, en fait, j'espère qu'elle n'a pas passé inaperçue chez vous, chers auditeurs, auditrices. Bande dessinée absolument superbe qui nous place en plein cœur de l'Espagne de Franco dans le contexte d'un polar historique, qu'on pourrait dire, ou presque d'une BD historique aussi à certains égards. Peut-être d'entrée de jeu, Teresa, qu'est-ce qui faisait justement que l'Espagne de Franco était un bon contexte, un bon décor pour un récit d'inspiration polaire?
Je suis toujours très intéressée pour l'histoire. Alors, pour l'histoire de mon pays, encore plus. Et c'est bien que comme la guerre civile, c'est un chapitre de notre histoire qui n'est pas complètement fermé. Qui pas mal de personnes ont les blessures un peu ouvertes. Et je suis très intéressée à comprendre pourquoi. Et je suis une personne très, très intéressée par l'histoire et surtout par l'histoire de l'Espagne parce que la guerre civile est encore très vivante entre la population. Il fera bientôt un cycle. Qu'on a passé la guerre civile, mais les nouvelles générations sont encore très polarisées autour des causes et de pourquoi on s'était enfrenté civilement à l'Espagne. Et en plus, j'étais très intéressée par comment est-ce que les personnes, la population a vécu sur la dictature. Parce qu'on a eu 40 ans de dictature et ça qui m'intéresse beaucoup, c'est de montrer surtout aux plus jeunes et comment est-ce qu'on va vivre quand tous les droits qu'on pense maintenant qui sont complètement garantis, toute la vie qu'on a et on considère normale. Et il y a des systèmes politiques qui vont tout changer, qui vont enlever pas mal de droits, comme les droits d'expression, les droits de penser ou d'avoir ta propre religion. Et on a vécu tout ça en Espagne. Alors, ça a été très important pour moi d'abord de le connaître moi-même et après de le montrer.
De l'intégrer parce que, dans le fond, évidemment, on est dans un récit fictif, mais qui se passe dans une Espagne vraie. Donc, il y a la documentation, la réalité historique est là, autant que il y a des personnages qui sont fictifs, mais on le comprend bien aussi dans l'appendice qui est à l'album, mais qui sont inspirés, qui sont calqués même dans certains cas de personnes réelles ou de dialogues, de propos réels. Deux exemples, le personnage de Charo qui est calqué sur l'une des premières femmes légistes au pays, ou encore un autre médecin dans l'album, Valero, qui établit des liens très douteux entre marxisme et déficience mentale, qui ont été empruntés textuellement à un autre médecin. Donc, ce qui fait que la réalité vient un peu enrichir, contribuer, dans le fond, à légitimer la fiction qu'on développe à l'intérieur de cette réalité-là.
Oui, c'est ça. C'est que je voulais faire une chose, un truc très, très documenté parce que c'est bien sûr un aspect, un chapitre de notre histoire qui fait pas mal à beaucoup de personnes encore. Alors, je voulais être très, très délicat et de le faire avec beaucoup d'honnêteté. Et j'ai fait une recherche très profonde pour tout savoir et voir vraiment quelle est la réalité et comprendre un peu les motivations de tout le monde, encore les plus machins, non? Mais j'ai voulu le faire dans une histoire fictive parce que je pense que c'est plus facile pour le lecteur d'entrer dans l'histoire comme ça. Et je ne voulais pas faire un truc biographique ou complètement historique comme un essai, mais profiter de tous ces événements qui sont vraiment réels et pour réveiller un peu la curiosité du lecteur et que le lecteur peut à la fin à compléter les voyages et poursuivre à connaître des trucs qui sont vraiment passés et de connaître les personnages les plus étranges qu'on a eu dans l'Espagne, non? Et comme tu le disais, le docteur Vallejo qui avait une théorie qui disait que les personnes avec une pensée de gauche étaient des débiles mentales. Alors, maintenant, c'est vraiment difficile à croire, mais ça est réel. Il a fait des études pour le prouver et je voulais absolument le montrer à le lecteur d'aujourd'hui pour voir que parfois il y a des idées qui sont vraiment bizarres, vraiment étranges, mais qui se sont installées. Et ça, c'est vraiment dangereux.
Et sur 154 planches, dans le fond, dans Contrapasso, je trouve que vous êtes donné la liberté, dans le fond, ou imposé la liberté aussi, parce que c'est de la job, c'est du travail, comme on dit, mais de faire vivre cet univers-là, dans le fond. Donc, on a un univers qui est complet, et peut-être, en fait, si je vais par étapes, dans le fond, l'univers est complet, donc on l'a vu sur le plan historique. À l'intérieur de ça, donc, les planches, elles sont chargées, il y a des gens qui habitent cet univers-là, qui vivent, qui sont actifs. En arrière-plan, c'est très, très riche de ce côté-là. On a toujours l'impression qu'on est dans quelque chose qui est très vivant. Et ensuite, bien, il y a l'intrigue elle-même et l'intrigue qui nous amène à la fois vers le récit principal, mais à la fois aussi à la découverte des personnages qu'on rencontre et qu'on construit aussi, et pas nécessairement toujours en lien implicite avec l'intrigue, donc qui vient simplement enrichir la relation qu'on a avec votre univers, avec votre monde, avec votre personnage. Et en parallèle, bien, il y a l'intrigue qu'on suit, qui nous tient en haleine parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui arrive. Donc, je trouve que c'est un beau jeu d'équilibriste, dans le fond, que vous avez fait avec toute cette dimension-là. Peut-être commençons, dans le fond, avec justement l'univers, donc l'arrière-plan, le fait, justement, la volonté d'avoir, justement, une Espagne qui est très, très vivante, très active. Ça veut dire aussi, j'imagine, un gros travail sur la composition des planches, le dessin, la préparation de ces vues d'ensemble-là.
Et oui, c'est vrai, j'ai me documenté aussi beaucoup à niveau d'images. J'ai une collection de photos de l'époque et des films aussi qui montrent comment était la vie. Principalement la vie dans les années 50 à Madrid, que c'est la ville où l'action est placée. Et c'était très contrasté. Je pense que c'est la caractéristique principale. Et il y avait de la richesse partout, de la voiture américaine, les Américains qui sont venus et l'argent qui est partout. Mais il y avait aussi les immigrants de l'extérieur, d'autre part de l'Espagne, qui sont venus, qu'il était la pauvreté. Propriété, c'est dit, complet, c'est la misère, et tout ça était ensemble dans les mêmes endroits, dans les grandes rues et les grandes avenues, non? Tu peux
Et même les cafés, en fait,
voir.
parce que je pense, par exemple, le café Fouima,
Oui.
qui a une particularité aussi pour vous, comme personne, je pense que votre père travaillait là à une certaine époque.
Oui, c'était mon père qui a travaillé là. Il a commencé à travailler avec Tressin comme un groom de café. Et il m'a raconté tout ça. Il était une de ces immigrants qui avait arrivé avec la famille comme un enfant. Et il a commencé à travailler adolescente. Mais il m'a dit, bon, les centres de Madrid à l'époque étaient peuplé de personnes avec beaucoup, beaucoup d'argent. Il était le luxe, il était tout ça qu'on vibre avec la pauvreté le plus absolue. Et ça m'intéressait beaucoup. Alors, je me plongeais complètement sur l'ambiance pour essayer de bien les refléter dans les cases, avec les dessins. Et pour aider aussi, comme on avait parlé avant, d'aider le lecteur de se plonger aussi avec moi, de voir un univers qui est disparu, et qui était vraiment choquant parce qu'il était très, très contrasté, mais que je pense que c'est intéressant, intéressant pour un lecteur d'aujourd'hui.
Je confirme, d'ailleurs. Et à l'intérieur de cet univers-là, parce que là, je tourne autour et je pense qu'on n'a même pas encore parlé de l'intrigue elle-même de Contrapasso. On a dit que c'était un polar, mais dans le fond, on retrouve donc ces deux journalistes de faits divers qui sont un peu forcés de travailler ensemble, l'un expérimenté, l'autre qui commence, et qui vont amorcer, dans le fond, une enquête qui va devenir, au bout du compte, une quête de vérité pour une quête de vérité. Donc, on n'est pas dans une logique d'écrire l'article, mais simplement de trouver ce qui s'était passé de vrai, de véritable. Avec deux anti-héros. Donc, qu'est-ce qui vous a amené un peu vers cette piste-là, vers ces personnages-là?
Bon, il y avait une journal de faits divers à l'Espagne dans les années 50 qui était très fameux, qui s'appelait Le Caso. Et normalement, ça a été très, très populaire. Et ils sont échappé un peu à la censure à travers de faits divers. Alors, mon première idée était de raconter l'histoire de ce journal-là, et parce qu'il était vraiment intéressant. J'ai connu quelques journalistes qui sont maintenant très, très anciens et qui m'ont expliqué comment ils ont fait son travail à l'époque. Il était vraiment fascinant. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à développer l'histoire pour la BD, et il a commencé en même temps à la télévision espagnole une série qui racontait toute l'histoire de ce journal. Exactement. Alors, je me dis, bon, je vais continuer en faisant une histoire de fiction, mais je ne vais pas perdre la puissance des journalistes qui, à travers les faits divers, ils sont forcés à trouver la vérité des cas et les communiquer à la population malgré la censure. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer l'histoire d'une autre façon. Et j'ai créé les personnages des sens et les noirs qui sont si différents, mais ils sont forcés à travailler ensemble parce qu'ils sont unis par la volonté de découvrir la vérité et de les raconter. Alors, bon, je suis satisfaite. Au début, ça a été frustrant, mais à la fin, je pense que ça a été mieux et j'ai développé une histoire un peu plus originale qui est bien, je suis satisfaite.
Oui, en fait, une histoire qui les amène à enquêter. Bon, au départ, en fait, on a l'impression qu'on va démarrer sur une histoire de tueur en série, potentiellement, mais en même temps, on ne peut même pas parler de tueur en série non plus. Donc, on campe rapidement l'Espagne de Franco et la censure en disant, mais il n'y en a pas sous Franco, ça n'existe pas, donc on ne peut pas en parler. Et finalement, de cette fausse ligne rouge-là, on oblique vers un meurtre qui n'est pas nécessairement rattaché à ça, mais qui finalement est rattaché à quelque chose d'autre qu'on va justement faire émerger au fil des pages en lien avec des vols d'enfants, au bout du compte, presque, on pourrait dire ça. Encore là, j'imagine un peu le démarrage comme ça nous permet de placer beaucoup d'éléments et ensuite, ben, dans le fond, de se replonger un peu dans l'enquête, mais qui nous permet aussi d'aborder de front les questions de droit dont vous parliez tout à l'heure. Donc, quand on parlait de droits des femmes, quand on parlait de droits fondamentaux, ben, t'sais, au bout du compte, le choix que vous avez fait vous amène clairement à pouvoir nous confronter à ça. Tout en tout en menant cette quête de vérité-là avec vos personnages sur ce qui s'est passé dans le cas du récit que vous mettez de l'avant.
Oui, je suis très contente de t'écouter parler comme ça parce que c'était exactement ça que je voulais faire. Non? Et bon, oui, je pense que commencer comme avec une case qui sans étudier pendant 20 ans. Et qui n'est pas résolu parce que normalement les pouvoirs ne les laissent pas faire de recherches et à la police non plus. Et oui, ça me permet de mettre toute l'ambiance, de montrer comment les règles de cet univers qui est régulé par une censure très très forte. Et alors, les nouvelles cases, les cases de l'infirmière qui apparaît morte, et ça va me permettre de raconter vraiment les aspects les plus sordides de la dictature, l'abus des pouvoirs, comment est-ce que ils sont. Sont exercés les pouvoirs sur les femmes et surtout sur les enfants avec les vols des enfants des personnes de roche ou des personnes pauvres, non? Pour le donner à des familles d'origine. Ça qui est une question très 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 dure pour quelques personnes à l'Espagne aujourd'hui. Il y a des associations qui essayent de contacter les enfants avec les mères ou les pères perdus, non? Et bon, je voulais absolument montrer ça. Et je pense que les cas l'assassinat va me permettre, c'est le fil rouge qu'on peut utiliser pour découvrir tout ça, que c'est pour moi, c'est plus effrayant que l'assassinat même.
Oui, puis on dirait, puis là, j'interpelle aussi Joan Díaz-Canales dans tout ça parce que j'ai l'impression, puis je faisais, on fait des parallèles puisque vous êtes les deux avec moi, mais dans l'univers, par exemple, de Black Sad, autant aussi que dans Gentleman, au bout du compte, le moteur du polar me semble extrêmement riche parce qu'il vient ou il est servi par le social, parce qu'il reflète des réalités, des enjeux sociaux, parce qu'il est justifié ou motivé aussi en partie par des enjeux sociaux. C'est quelque chose que je trouve qu'on retrouve aussi dans ces séries-là comme telles. Donc, est-ce qu'une volonté justement d'assurer cette connexion-là, puis que cette connexion-là, j'imagine, vienne enrichir aussi la dynamique d'enquête, la dynamique de thriller qu'on retrouve par la suite à l'intérieur de vos albums?
Oui, bon, on dit toujours que les polars, c'est un genre extrêmement, comment dire, extrêmement riche à ce niveau-là. Parce que d'un côté, effectivement, il y a la présence des sujets sociaux que tu peux développer et que, par exemple, on a mis en avant dans les tout dernières Black Sad, les diptyques qu'on vient de publier, les tomes 1, et alors tout tombe. On parlait d'un sujet social, on parlait de la différence entre les classes les plus riches en New York et les plus démunies qui travaillent sur les sous-sols, voilà. Mais en même temps, les polars a cette côté plus personnel, plus existentiel, si tu veux, qui vient à travers les dialogues internes des personnages. Le plus évident, c'est les voix off et grâce à lesquelles on écoute même les pensées les plus intimes des personnages, en général de l'héros. Donc, c'est double côté, à la fois social et personnel et intimiste, ça donne un potentiel narratif au polar que c'est superbe et qu'on essaie de profiter pour notre récit.
Oui, puis même à la limite sur le plan visuel aussi, parce que quand on regarde le tome 6 de Black Sad notamment, il y a une verticalité qui, on dirait, New York appelle un peu à ça, donc avec les classes élevées qui sont en haut, les gratte-ciel, le profond. Donc il y a quelque chose qui se met agréablement en exergue, je trouve, avec l'architecture quand on cherche à exemplifier, dans le fond, la lutte des classes ou à contextualiser cette lutte-là, à l'imager.
Oui, faut, on parle de polar, mais on parle aussi que on est, les médiums qu'on utilise, c'est la BD. Et la BD, c'est littéraire, mais c'est aussi visuel. Et il faut profiter absolument de ça et on se réjouit de faire ça. Donc, effectivement, comme tu bien dis, le leitmotiv de, pas seulement de Tom Six, mais du diptyque de Alors tout tombe, c'est ça. C'est le contraste qu'on trouve. Et en plus, dans la grande ville représentée pour New York, et au moment donné, c'est plus un lieu mythologique qu'un lieu réel, où les plus riches bougent dans les gratte-ciel et tout ça. Et il y a une partie de la population qui, même s'ils sont entournés de la richesse, de les luxe, de tout ça, et nous, vont pas jamais arriver à avoir une chance. Donc, nous avons profité la présence de ce décor privilégié de New York, mais aussi le côté animalier qui nous apporte quelque chose. Les classes les plus élevées sont des oiseaux, donc ça tombe bien. Et les travailleurs de métro, par exemple, qui bossent dans une espèce de tanière, que c'est finalement les métros. Ce sont des petits animaux qui sont habitués à vivre là-bas, sont les sourcils, voilà, tous les animaux qui sont habitués à habiter au-dessous de la terre.
Oui, et je fais une parenthèse en fait sur le côté animalier de Black Sad qui est devenu un peu la marque de commerce de cette série-là. Et des fois, j'essaie de me reporter en amont du premier tome quand vous et Juanjo Garnido, qui travaillez au dessin sur la série, vous avez décidé justement d'aller de l'avant avec les personnages animaliers. J'imagine que ça n'allait pas nécessairement de soi et qu'il fallait réussir à bien placer ça pour qu'au bout d'une dizaine de planches, dans le fond, le lecteur oublie qu'on est dans un univers animalier, accepte la réalité dans laquelle vous aviez choisi de nous entraîner.
Oui, tout à fait. C'était au moment donné, c'était un parti pris un peu risqué parce que en plus, on est quelque part habitué à voir bon, les dessins animés, bien sûr, mais aussi la BD animalière. Nous sommes pas les premiers à faire ça. Mais par contre, c'est vrai que le style graphique de Juanjo, il est très, très, très pointu, il est assez réalistique, même si c'est animalier, c'est assez réalistique, très détaillé. Donc, il faut se faire ça d'une façon que l'acteur va être bien à l'aise avec ce mélange de réalité et fantasy. Et bon, heureusement, comme je dis, c'était risqué, mais ça a bien marché. Et je crois que ça va marcher parce que au moment donné, on est tellement habitué à des histoires qui viennent de loin, qui viennent surtout d'un genre si ancien comme des fables, qui marchent très bien depuis la nuit du temps à la fin et qui nous montrent la vie et notre histoire d'une façon métaphorique que ce sont des codes finalement qu'on admet un peu partout, surtout dans la culture occidentale. Donc, ce mélange finalement a bien marché parce que quelque part nous étions habitués à utiliser les animaux, soit au niveau graphique pour représenter des personnages, soit même au niveau de la langue. Parce qu'il y a pas mal de jeux de mots, des proverbes. Avec les animaux comme personnages principaux et qui ce sont des c'est curieux mais c'est la plupart des cultures la plupart des langues partagent surtout dans l'Occident. Donc je crois qu'à la base c'est ça les succès, entre guillemets, de la formule qu'on a choisie pour Black Sad.
J'aime bien l'idée, en fait, l'idée que vous amenez de la fable, d'une fable polaire au bout du compte, parce qu'on nous ramène aussi à la fois donc l'animalier, à la fois les enjeux sociaux, à la fois le reflet, dans le fond, des réalités que vous choisissez de présenter, le reflet qu'ils ont dans notre monde actuel aussi, parce que, je veux dire, on est, et c'est valide aussi pour Contrapasso également, mais sans l'aspect animalier, évidemment, puisqu'on est dans du pur réalisme, mais sur l'idée qu'on nous présente des réalités sous la forme du polar, mais qui ont des résonances encore aujourd'hui, qui font que le lecteur va aussi se positionner par rapport à la réalité du monde que vous nous partagez, dans le fond.
Oui, et c'est pour ça que ce n'est pas non plus... c'est évolué aussi. Par exemple, la lection de les liens géographiques et du moment historique dont on parle à Black Sax. J'ai parlé avant de comment New York nous sert de façon presque mythologique. C'est plutôt une représentation de la ville en général. Parce que tout le monde connaît New York. Même si tu n'as jamais mis les pieds là-bas, on connaît grâce aux films, grâce aux romans de toutes ces histoires qui se passent dans les polars américains et tout ça. Donc, pour nous, c'est un peu la substitution de l'ancienne mythologie qui vient nous accompagner depuis toujours, qui vient des Grecs, les œuvres de Shakespeare. Cette histoire américaine, au moment donné, ça continue sa ligne. Donc, effectivement, on parle d'une histoire qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale, dans un endroit qui n'est pas européen et tout ça, mais qui c'est un reflet de l'histoire qui se passe aujourd'hui. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le triomphe du capitalisme, c'est le triomphe des mass médias, c'est un peu le point de départ de la société où nous vivons encore. Il y a pas mal de sujets, en fait, qui ne sont pas résolus. On parle, au fur et à mesure qu'on a développé la série de Black Sad, ils vont apparaître la crise nucléaire, donc voilà, d'actualité. On parle de la ségrégation, voilà. Ce sont des sujets délicats, encore résolus. Donc, c'est, bref, c'est une façon facile pour nous d'utiliser un cadre historique qui nous sert pour parler des sujets qui nous touchent encore.
Oui, en fait, le cadre historique qui est connu, qui est perçu, je veux dire, on a une opinion, on connaît un peu sans connaître New York, qu'on y soit allé ou non, on a un imaginaire, on a une opinion. Vos personnages animaliers, dans le fond, nécessairement, je veux dire, l'oiseau, le reptile, le chat, on a une opinion par rapport à ces animaux-là, donc on part aussi avec des codes établis de ce côté-là. Et dans un genre, le polar, pour lequel aussi il y a quand même des normes, entre guillemets, des codes qui sont très clairs, donc qui est un genre aussi qu'on maîtrise. Et donc, on part de trois ingrédients, de trois bases, dans le fond, qui sont assez universelles, j'aurais envie de dire. Puis après ça, qui vous donne, j'imagine, aussi une liberté, sachant qu'on s'accorde sur des bases. Après ça, soit de les pousser dans différents sens, soit de les éclater, soit de les renouveler. Mais j'imagine que ça doit être assez à la fois contraignant et à la fois inspirant de travailler avec ces éléments-là.
Oui, tout à fait. C'est ça. C'est bien expliqué parce que effectivement, il y a vraiment un choix infini, presque, de choisir les codes, soit les codes polaires, soit les codes animaliers que tout le monde connaît, soit les imaginaires, effectivement, américains. Mais en même temps, il y a une contrainte parce que c'est assez risqué, c'est assez facile de tomber dans les clichés. Donc, il faut. C'est un matériel narratif délicat en même temps. Tu peux utiliser, par exemple, la femme fatale, et tout le monde va reconnaître d'un couple. Mais si on. Il faut essayer d'éviter de voir 1000 fois la même fin fatale. Donc, ça nous donne une possibilité, mais ça nous donne aussi un risque de tomber dans une histoire que tu peux trouver chaque fois que tu éteignes la télé et vas voir une série. Donc, il faut guérir tout cela avec une certaine précaution. Les secrets, un peu, les secrets, bon, la façon de faire pour moi, pour éviter cela, c'est travailler surtout dans les personas. C'est ça que je crois que vous avez parlé avant avec Teresa, c'est pareil, elle fait un travail magnifique, formidable avec les personas et on travaille l'un à côté de l'autre, on est d'accord sur ça. Et le plus important dans n'importe qui récit, ce sont les personnages. Si tu as des personnages puissantes, si tu as des personnages bien décrits, bien intéressants, qui génèrent de l'empathie avec le lecteur et tout ça va bien marcher, même si tu es dans un genre très très utilisé déjà, ou même si tu es en train d'utiliser des codes de genre très, très utilisés par d'autres. Donc, le travail sur les personnages, c'est le plus important. Et ça, c'est pas évident. Il faut mettre beaucoup de travail sur cela.
Je rappelle, enfin, on est toujours en compagnie de Joan Diaz-Canales et Teresa Valero. On surfe un peu en Black Sad, Contrapasso et d'autres titres. Et je pense qu'on comprend aussi qu'il y a quand même une certaine parenté dans la méthode, dans l'approche, dans la relation, j'ai l'impression, avec le polar, parce que les questions que je demandais en première moitié à Teresa, que j'aurais pu demander à l'identique ou presque à Joan Diaz, et à l'inverse également, sur la force, l'importance des personnages, je pense que c'est là-dessus qu'on s'est laissé à la dernière question. Teresa, de votre côté, ça semble aussi être quelque chose que vous partagez, un instinct que vous partagez. Il faut avoir des personnages forts dans un univers fort pour qu'après ça, ça puisse fonctionner, puis après ça, que le lecteur suive, dans le fond, dans une direction ou dans une autre.
Et oui, pour moi, je pense que le plus important, ce sont les personnages. Et juste après, c'est l'ambiance sociale. Ça, c'est que j'aime le plus transmettre. Et pour les personnages, s'ils sont forts, s'ils sont un bon reflet de l'être humain, de l'âme des personnes, et je pense que tu as beaucoup, beaucoup de possibilités de gagner la sympathie du lecteur parce que normalement, on va avoir un effet d'identification complet avec le personnage. Ça n'importe si c'est une personne plus vieille ou si c'est un homme et une femme. Et s'il va montrer les valeurs humaines, l'intérêt de justice, les valeurs les plus hautes que ça nous font. On le donne de l'importance, ça nous inquiète. Je pense que ça va marcher, les récits complets, parce que ça qui va les arriver au personnage, et ça va t'inquiéter, tu seras. Tu vas suivre avec ton cœur. Alors, oui, pour moi, c'est ça. Et après, de faire une ambiance qui va entourer tout et qui soit crédible et qui soit bien construite et bien documentée. Et comme ça, je pense que tu vas avoir un récit qui est solide, bien construit aussi, et qui sera satisfactoire pour les lecteurs.
Et évidemment, ça devient des fois une question d'espace ou une chouette d'allocation d'espace. Si on prend par exemple Black Sad, le tome 6, on le met en deux tomes. C'est un diptyque, je pense que ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la série qu'on s'est donné deux tomes, mais ça permet justement de développer, je pense à Weekly par exemple. Donc, on lui donne un peu plus d'importance, on donne plus de place. Donc, ce fait qu'on a plusieurs personnages qui peuvent avoir de l'espace pour se développer. Et autant que les personnes, on parle de Salomon, on pourrait parler d'autres personnages aussi dans Contrapasso, mais il faut que les vilains aussi, entre guillemets, aide l'espace aussi pour se développer, qu'on ait une opinion, qu'il y ait une richesse aussi, parce que si c'est juste un ressort scénaristique, il n'y a pas d'intérêt comme personnage non plus. Donc, ce n'est pas juste les anti-héros ou les héros, ce n'est pas juste les gens qui les entourent, mais c'est aussi les gens auxquels ils s'opposent, qu'il faut se donner de la place pour les développer, les enrichir.
Et oui, complètement. Oui, oui. Je suis d'accord et je pense que Fan aussi. Je le laisse parler.
Non, tout à fait. La BD, c'est un médium si condensé qu'effectivement, pour développer un personnage, ça devient parfois compliqué. Nous avons eu parfois du mal avec Black Sat parce que déjà, une enquête policière dans 54 planches, c'est compliqué. Notamment avec les découpages qu'utilise Juanjo, que c'est assez visuel, avec parfois des plans qui sont muettes, qui n'ont pas de dialogue, ou des plans avec un seul casse. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de développer un peu plus cette histoire d'un diptyque. C'est la première fois qu'on va raconter une histoire, une enquête de Black Sat qui nous va prendre plus d'une centaine de planches. Donc, ça nous permet effectivement de développer un personnage comme Weekly, comme tu viens de dire, qui jusqu'à aujourd'hui n'était presque qu'un sidekick de Black Sat. Et que grâce à les formats diptyques, on a pu développer plus, lui donner à lui-même un trame dans l'histoire. On va voir finalement Weekly qui n'est pas du tout un assistant de Black Sat, mais un reporter, un journaliste à temps complet. Donc voilà, on est content finalement d'avoir choisi cet format, même si c'est un peu frustrant d'avoir un cliffhanger à la fin du tome 6, mais on se dit très souvent que c'est frustrant, mais en même temps c'est de la joie parce que c'est une promesse de qu'on va revenir très tôt.
Oui, surtout, après 6 ans, sincèrement, on était prêt à en recevoir pour la peine. Et je fais la parenthèse qu'avec Weekly et autant avec Contrapasso, l'univers médiatique reste quand même présent aussi comme ancrage de vos scénarios. Et j'aurais envie de faire un clin d'œil aussi à Gentle Minds, qui se passe aussi dans la sphère médiatique. Est-ce que, parce qu'on parlait de thématiques à caractère social, donc le fait d'avoir un journaliste dans les parages ou de s'ancrer un peu dans les pratiques médiatiques, j'imagine que ça offre la possibilité justement d'aller explorer différentes thématiques à caractère social, d'intégrer de manière assez naturelle dans les récits les enjeux sociaux dont on parle depuis tout à l'heure.
Et oui, c'est vrai, c'est que j'aime, et je pense que Juan l'aime beaucoup aussi, c'est de raconter des histoires de bons professionnels, des personnes qui, à travers le travail, ils vont faire des choses qui sont bonnes pour la société, bonnes pour l'entourage, et qu'ils vont se réaliser comme des êtres humains aussi, qu'ils vont se connaître mieux, ils vont développer comme un être humain plus parfait. Et en plus, pour une histoire, pour le scénario, pour l'enquête ou pour les conflits ou tout ça, et ça va enrichir tout l'ensemble aussi. Et alors, oui, pour nous, je pense qu'on va choisir d'une façon naturelle l'occupation de personnages et pour placer le récit à chaque fois. Non? Et pas seulement la ville, pas seulement le pays, l'époque, mais aussi quelle est l'occupation principale des personnages et son relation à travers la profession avec le monde réel et pour développer l'histoire finalement.
Et puis effectivement, c'est vrai que c'est qu'on a choisi pas mal de fois, soit dans Contrapasso et Black Sat, grâce à Weekly et notamment sur Gentle Mind, les métiers des journalistes, on les met en avance. Et c'est parce que il y a un côté de témoignages grâce à les journalistes qui nous donnent un regard un peu global de l'ensemble de la société, que c'est super intéressant. Si tu ne fais que raconter une histoire à travers d'un flic, par exemple, ou d'un privé, et il y a cet côté toujours d'interprétation personnelle. Mais par contre, quand tu vas mettre un journaliste, tu as un regard un peu dépouillé, un peu de préjugés et tout ça. Et c'est assez intéressant, surtout quand on parle des sujets sociaux.
Et on pousse un peu même cette logique avec Gentle Minds, avec le personnage de Navid qui non seulement gravite dans la sphère des médias, mais justement va utiliser la capacité du média comme vecteur de témoignage, reflet de la société pour apporter un changement. Parce qu'on parlait de droits des femmes en début d'entretien, ben on est à fond là-dedans, où on passe un magazine girly, entre guillemets, fait par des hommes, vers un magazine féminin, dans le fond, voire même un peu féministe avant son temps. Donc, j'imagine que à un moment donné, on a réalisé qu'on s'était ouvert scénaristiquement cette porte-là avec les choix de personnages qu'on avait faits, ou...
Oui, je pense que ça que j'aime beaucoup de Navid, par exemple, c'est qu'elle est un peu le nexe de tout le reste. Parce qu'elle est une personnage qui ne sait rien faire réellement. Elle n'a pas une formation de professionnelle, elle ne sait pas faire rien. Mais elle a un talent incroyable de reconnaître le talent des autres et de l'utiliser pour créer quelque chose vraiment intéressant ou vraiment important. Alors, c'est grâce à elle que le magasin va changer, va devenir une publication vraiment de qualité qui va montrer toute l'actualité de États-Unis pendant 40 ans. Et pour moi, ça a été vraiment le plus intéressant quand on a commencé à développer les scénarios, d'avoir ces sortes de personnages si original, que ce n'est pas une héroïne parce qu'elle n'a pas un talent spécial, mais a la capacité de reconnaître le talent des autres. Et pour toi, Juan?
Non, c'est vrai, c'est ça, super intéressant. C'est pour ça que les personnages de Navid sont les plus puissantes de Gentlemen. Et je trouve que le meilleur exemple de cela, c'est une idée géniale de Teresa qui, au moment donné, quand ils sont en train de trouver la façon de faire que les magazines soient intéressants, et c'est elle qui a l'idée de demander aux femmes. Parce qu'il s'est dit, écoute, on est en train de faire un magazine pour des hommes. Qu'est-ce qu'ils aiment, les hommes? Et c'est elle qui dit, écoute, je ne sais rien faire, je ne sais écrire, mais je sais que pour savoir qui c'est que les hommes aiment, il faut demander leur femme. Donc, voilà, c'est super intelligent de sa part. C'est vrai que c'est grâce à elle que toute l'histoire se développe. Et c'est une réflexion très, très malin, très intéressante.
Oui, puis en fait, elle canalise, dans le fond, une histoire qui est quand même très dense aussi, là. Je pense, juste en termes de... On va avec... Vous avez été côté scénario dans celui-là. Je pense que c'est des pages, des fois, de 10 cases et plus. Là. Il se passe beaucoup de choses de manière très dense sur deux tomes, mais Navid réussit peut-être un peu, ou à travers ce qui se passe chez elle, ça canalise un peu tout le reste, puis ça donne, dans le fond, le fil rouge clair, un peu, du scénario qui entraîne le reste à sa renverse. Il y a plein de choses qui se passent, mais en même temps, on suit. Puis avec le rythme et le reste, ben on réussit autant dans Gentleman que dans les autres, dans le fond, à aller chercher beaucoup de matière. Et peut-être qu'on revient un peu avec le rythme du polar. Dans le fond, c'est que le polar impose un rythme, une vitesse, une vélocité, une direction pour le lecteur, dans la mesure où il est bien encadré avec un bon personnage fort ou des bons personnages forts. Et après ça, dans le fond, dans les trois albums dont on parle depuis tantôt, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de matériel, mais ça passe de façon très, très, très fluide. Est-ce que c'est un peu le rythme du polar, dans le fond, aussi, qui permet ça, qui est un peu l'ingrédient qui permet de lier tout ça?
J'imagine, mais en tout cas, c'est assez compliqué. Hein? On est bien conscients, je crois, Teresa et moi, que notre scénario, en général, sont, et notamment celle de Gentleman, sont assez denses. Donc, il faut trouver un équilibre, effectivement, dans cette densité, dans sa quantité de sujets à traiter, des personnages qui ont mis en scène. Même Gentleman, à la fin, c'est un roman fleuve, donc, qui se passe pendant des années. On va voir évoluer les personnages dans différentes décennies. Il y a toute la question de l'évolution en parallèle des magazines en général hein, aux États-Unis. C'est une espèce de Mad Men de la BD. Et finalement, donc, il faut trouver un équilibre, effectivement, pour ne pas perdre les lecteurs. Les structures polaires, ça aide beaucoup, mais au moment donné, Gentleman n'est pas tellement un polar. C'est un peu différent. Mais le fil rouge, effectivement, c'est Navid. Et finalement, c'est pour ça, et on revient à la question antérieure, que c'est super important d'avoir un personnage qui soit fort. Avec Navid, on a créé, je crois, un personnage où le lecteur veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les pas suivantes? C'est quoi son prochain amour? C'est quoi son prochain envie de faire après la mort de son premier mari? C'est quoi? Et là, c'est le travail le plus important. Parce que si on s'en fiche de ça qui se le passe au personnage principal, tout va tomber sur l'eau.
Et à l'intérieur de tout ça, pour structurer les éléments, si on fait un petit clin d'œil méthodologique un peu, si on peut dire, j'avais lu quelque part que vous disiez que vos scénarios étaient quand même très cinématographiques dans la manière dont on place, dont on organise les choses, qu'il y a une rigueur, dans le fond, dans la manière dont vous abordez un peu le scénario comme tel.
Oui, je pense que ça a quelque chose à voir avec notre formation comme des artistes d'animation. C'est qu'une grande part de notre langage, de la narrative qu'on a utilisée pendant 30 ans de profession, a beaucoup à voir avec l'animation et le langage cinématographique. Mais c'est vrai que je pense qu'on est conscient que la BD, c'est une autre chose. Que tu peux faire une BD qui a des ressources de la cinématographie ou de la peinture, de la poésie. Parce que je pense que sur la BD, tu peux mettre presque tout. Mais c'est vrai que la BD est différente parce que le cinéma... c'est le temps, c'est la caractéristique narrative. Mais pour la BD, c'est l'espace, c'est la passe, la planche. Alors, tu dois savoir finalement comment faire une mise en page, que c'est le plus important. Qu'est-ce que tu veux raconter à chaque planche? C'est pour ça que c'est raconter un BD, c'est beaucoup plus cher parce que les planches, tu ne peux pas raconter beaucoup sur chaque planche. Et en plus, quand on fait ces sortes de scénarios plus denses qui essaient de raconter beaucoup de choses, les relations entre personnages, l'émotion et tout ça, tu dois choisir vraiment bien, qu'est-ce que tu vas montrer à chaque case, à chaque planche, ou qu'est-ce que tu vas mettre à la dernière case avant de retourner et tout ça, pour donner à chaque fois cette fluidité que je pense qu'on travaille beaucoup parce que c'est vraiment important pour avoir les lecteurs avec toi pendant tous les voyages. Et je pense que ça c'est important de l'avoir en tête.
Joanne Diaz, de votre côté, est-ce que c'est un peu, si je vous invite à compléter un peu la réponse, déjà bien complète d'ailleurs, que Thérèse m'a offerte.
Oui, ça que je peux apporter, c'est qu'en plus, on a l'énorme chance de travailler avec des dessinateurs avec un talent énorme. Blacksad, bien sûr, mais dans ce cas-là, des Gentlemen, on travaille avec Antonio Lapone, qui a fait un travail exceptionnel au niveau esthétique, mais aussi au niveau de la mise en place. Donc, ça aide beaucoup avoir un copain qui rende facile ce que tu as en tête et que tu as essayé d'écrire. Parce que ce n'est pas du tout évident. C'est le pas d'avoir un récit écrit, d'y mettre cela en image, c'est un énorme défi. Donc, dans le cas de Gentlemen, avec l'apportation d'Antonio Lapone qui a placé un peu partout des éléments qui nous situent d'une façon immédiate dans chaque différente période historique où nous avons traversé, et ça déjà aide beaucoup et ça donne une caractéristique spéciale à cette diptyque. Surtout, notamment au niveau de la couverture, des affiches et tout ça, qu'il a fait d'une façon formidable et merveilleuse.
Peut-être terminer avec juste un mini clin d'œil sur Corto Maltese aussi. Juan Diaz-Canales, en fait, vous avez repris avec Ruben Pelenheiro là-dessus, donc la série, ça fait déjà quelque temps, en fait. Je me disais, dans le fond, il y a un défi parce qu'il y a des éléments qu'on retrouve, dont on a parlé, je pense qu'on retrouve aussi à l'intérieur de cette série-là, notamment, dans le fond, dans les résonances avec l'époque et le reste. Donc, j'imagine que quand on reprend l'univers de quelqu'un d'autre, il y a toujours la réflexion à savoir qu'est-ce que moi je peux apporter à cet univers-là pour pas ne faire que de la nostalgie, mais qui va être assez connecté avec, j'imagine, la pensée artistique d'un autre créateur pour qu'on se retrouve quand même en territoire connu. Donc, est-ce que c'est un défi particulier ou différent en abordant un personnage ou un univers comme ça qui, au départ, n'est pas le nôtre? Comparativement à un univers comme Blacksad, qui est le nôtre à 100% qu'on a coloré du début à la fin, dans le fond.
Oui, il y a un côté que c'est un peu pareil. On a parlé avant de comment il faut éviter quelque part, quand tu fais un récit polar, tomber dans les clichés. Donc, au moment donné, la façon d'affronter le Corto Maltese, c'est un peu pareil. Dans ces cas-là, ce n'est pas tomber dans les clichés. Mais c'est sur les codes qu'on connaît un peu par cœur. C'est ça qu'on risque quand on fait quand on reprend un personnage tellement connu comme c'est le cas de Corto Maltese, c'est tomber dans la copie, dans les pastiches. Donc, effectivement, il faut rester un peu attentif. Et la façon de faire, surtout pour moi, ça a été de ne pas relire tous les albums de Corto, mais par contre, rester sur les souvenirs que j'avais de la lecture des histoires de Corto. C'est la façon que j'ai trouvé plus intéressante pour rester dans l'esprit et pas dans la lettre, on peut dire. Donc, quand je me suis mis à écrire le scénario du premier tome qu'on a fait sur le soleil de minuit, j'ai commencé à relire tous les albums et j'ai arrêté parce que je me suis dit, écoute, je connais par cœur Corto Maltese. Je suis passionné depuis que j'étais adolescent. Donc, il faut rester dans mon souvenir, dans les émotions que la lecture de Corto Maltese m'a provoquées. Donc, tout cela mélangé avec effectivement notre propre façon de faire, la façon de faire, de raconter des histoires de Ruben et la mienne, qui s'est complètement différente à celle de Europrat, fait que chaque fois qu'on raconte une histoire de Corto, il y a l'esprit du personnage, il y a l'esprit de l'univers de Corto Maltese, mais il y a aussi quelque part notre présence comme professionnel qui finalement on est en train de faire de la BD. Moi, pendant 20 ans, mais dans le cas de Ruben, il est dans le monde de la BD depuis les années 70. Donc voilà, tu peux imaginer que toute cette expérience va être d'une façon évidente dans notre travail. Et cette mélange fait que les cinq aventures de Corto soient quelque part originales.
Alors, je rappelle, dans le fond, on s'entretenait au fil de la dernière heure avec Juan Diaz-Canales et Teresa Valero. Donc, on a principalement parlé, je vous rappelle, les trois titres, Black Sad, évidemment, tome 6 qui est sorti l'an dernier, la deuxième partie du tome 6 qui s'en vient un peu plus tard également. On a fait des clins d'œil au diptyque Gentlemind que Teresa et Juan ont fait avec donc Antonio Lapone. Et on a également parlé de Contrapasso, le tome 1, Les enfants des autres, qui a été publié également tout récemment. Il y a un tome 2 qui est en travail également, donc on aura l'occasion de suivre ces multiples univers. Teresa, Juan, merci beaucoup pour cette heure passée avec nous.
Ah, merci beaucoup à vous. Ça a été un vrai plaisir. Merci.
Merci et à une prochaine fois, j'espère.
Voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine.